France Culture.
Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique.
En 1990, le journaliste du Monde, Laurent Grelzamer, publiait une biographie d'Hubert Beuve-Méry un an après sa disparition, dont rendait compte Philippe le Vilain dans Les Lundis de l'Histoire. Une émission qui était l'occasion de rappeler à quel point l'identité, le style, le positionnement du Monde étaient indissociables de l'homme qui avait inventé ce journal à la Libération et l'avait dirigé pendant 25 ans. Son histoire familiale, son éducation catholique, l'Institut français de Prague, la guerre, la résistance, après un passage à l'école des cadres d'Uriage qu'il contribua à dissocier du régime de Vichy. Comme s'était appliquée à le comprendre en profondeur la biographie de Laurent Grelzamer en évoquant les années fondatrices d'Hubert Beuve-Méry, ce lundi de l'histoire permettait de cerner les idées, les convictions morales et politiques sur lesquelles, à travers lui, s'était construit le monde. Permettait d'entendre comment, en répondant en 1944 à une volonté du général de Gaulle, Hubert Beuve-Méry avait fait du Monde le grand quotidien français de référence au-delà des frontières de l'Hexagone. Les lundis de l'histoire, les années fondatrices d'Hubert Beuve-Méry et du Monde, première diffusion le 8 octobre 1990 sur France Culture.
Les lundis de l'histoire, une émission de Philippe Le Vilain consacrée aujourd'hui à Hubert Beuve-Méry et l'École nationale des cadres d'Uriage.
Bonjour. Le 18 décembre 1944 paraissait le premier numéro du Monde, avec un éditorial de 29 lignes, non signé mais sous lequel on pouvait lire « Directeur Hubert Beuve-Méry », intitulé « À nos lecteurs », donc « Aux futurs lecteurs du Monde », et qui comportait trois points importants dont on peut partir aujourd'hui pour réfléchir à propos des livres dont je parlerai tout à l'heure sur la figure d'Hubert Beuve-Méry, le journal Le Monde et l'information et le monde en France de 1945 à nos jours. La première affirmation était celle-ci. Notre première ambition est d'assurer aux lecteurs des informations claires, vraies et dans toute la mesure du possible, rapides et complètes. C'était le moins, mais il faut relever, que Le Monde souhaitait donner une information éducative et une information objective. Terme qui lui sera très souvent placé en exergue ou en critique quant à la nature d'une qualité objective de l'information. Suivait un deuxième paragraphe qui pourrait donner l'impression aujourd'hui à un lecteur rapide ou naïf que le programme politique et les références économiques et sociales du Monde se présentaient comme une mise en œuvre de ce qu'on appelait ultérieurement le gaullisme, une référence à l'appel du 18 juin 1940 et un appel au redressement national dans l'unité invoquant, je cite, le juste partage des responsabilités communes et du commun profit. Enfin, cinq lignes que je cite également et qui sont les suivantes. Si usé que soit le mot, c'est bien une révolution par la loi qu'il s'agit de faire triompher. Celle qui restaurera par l'union et l'effort créateur de tous les Français indignes de ce nom, la grandeur et les libertés françaises. Révolution. En décembre 1944, il fallait assurément du courage pour vouloir redonner vie à un terme qui avait été dévoyé par 4 ans de révolution nationale et qui conservait, dans la mentalité française dans son histoire, une densité qui avait été brusquement allégée. Le directeur du Monde a 42 ans et l'entreprise est aléatoire. Elle le restera longtemps. Jacques Fauvet dira, et je cite le livre de Laurent Grelzamer, « Le monde ressemble à un enfant malingre allant incessamment mourir. » Mais comme chacun l'a souvent constaté, les enfants malingres deviennent des centenaires. Son directeur est un homme énigmatique. On sait qu'il a du caractère. Correspondant du Temps à Prague, il en a donné sa démission par une lettre de moraliste politique adressée à Joseph Barthélémy, futur garde des Sceaux dans le gouvernement de Vichy. Et il existe des protestations qui fondent une carrière, même par voie de démission. Alceste, c'est-à-dire misanthrope, amoureux d'une société qu'il voudrait rajeunir. Solitaire par éducation, ascète, mais catholique et mystique ou agnostique très chrétien. Sirius, patron parce que Sirius, hautain disaient les uns, gouailleur constataient les autres. C'est le refus des règles du protocole. Hubert Beuve-Méry n'a jamais été un magnat de la presse. Et c'est ce qui donne à son profil et à l'institution à laquelle son nom est indissociable, ou de laquelle son nom est indissociable, cette caractéristique spécifique. Un seul empire, celui de la conscience, qu'il entend faire résonner par une institution, Le Monde, un journal indépendant des milieux financiers et politiques, quoique d'aucuns n'y croient pas, au point qu'à l'étranger, on disait que Le Monde reflétait la politique gouvernementale parce que l'État y apprenait ce qu'il devait y faire. Indissociables sont l'homme et le journal. Mais comme il est de règle dans des institutions liées à des hommes, la tradition établie par lui a subi des interprétations. Elle a été façonnée aussi par des collaborateurs, des héritiers, des affrontements de circonstances, et c'est à la croisée de tous ces chemins, l'homme, un journal, un milieu, une vie intellectuelle, que veut se situer l'émission de ce matin. Participe à cette émission, et j'aime aussi d'être venu, je les cite par ordre alphabétique, comme ça, ça évite les questions de protocole, Bernard Comte, qui est professeur à l'Institut d'études politiques de Lyon, et qui... a soutenu en octobre 1987 une thèse intitulée « L'école nationale des cadres du Riage », sous-titre « Une communauté éducative non conformiste à l'époque de la Révolution nationale 1942 », suivi d'un épilogue « L'équipe du Riage dans les combats de la libération 1943-1946 ». Cette thèse, qui est en voie de publication aux éditions Fayard pour le grand public, est à l'heure actuelle accessible par le biais de l'Atelier national de reproduction des thèses de l'Université de Lille 3. Laurent Grexamer, qui est l'auteur de Hubert Beuve-Méry, 1902-1989, qui vient de paraître aux éditions Fayard et qui est journaliste au Monde. Marc Lazare, qui est maître de conférence en sciences politiques à l'Université de Paris 1, et qui, en collaboration avec Daniel Ginca, a publié un gros ouvrage qui est une présentation des grands éditoriaux et des grands moments du monde en politique extérieure, politique intérieure, politique culturelle, avec le reflet que donnent à 20 ou 10, voire quelquefois 30 ans d'écart, des articles de célébration ou de commémoration intitulés « Le Monde, 1944-1985, l'histoire au jour le jour », publié aux éditions à la Découverte, « Le Monde en 1987 ». Jean-Noël Jeannet, qui est professeur à l'Institut d'études politiques de Paris, ancien président de la mission du bicentenaire, ancien président de Radio France de 1982 à 1986, et qui, pour indépendamment de toute autre raison et de bien des ouvrages qu'il a écrits, est là aussi parce qu'il a publié au Seuil en 1979, en collaboration avec Jacques Julliard, un livre intitulé « Le monde de Beuve-Méry » ou « Le métier d'Alceste ». Bernard Lauzanne, ancien directeur de la rédaction au Monde, entré au Monde en novembre 1945, après avoir adressé, je cite Laurent Grexamer, une simple lettre au journal sollicitant un travail. On en reparlera tout à l'heure. Et Jacques Nobécourt, ancien correspondant du Monde à Rome, qui s'est occupé de politique étrangère et qui a écrit beaucoup de livres sur l'Italie, qui est là comme Bernard Lauzanne aussi comme témoin. Alors, Laurent Grexamer, vous avez écrit cette biographie, qui est une belle biographie, qui comporte deux aspects. Il y a Hubert Beuve-Méry intime, peu connu, qui visiblement est ressorti des contacts que vous avez avec lui, et de l'autorisation, vous le dites, qu'il vous a donné sans vouloir vous cautionner. Et vous dites bien d'ailleurs que, quoique cette biographie ait été terminée après le décès d'Hubert Beuve-Méry, de toute façon, vous avez toujours eu le sentiment que vous aviez une parfaite liberté, et vous n'avez jamais eu non plus l'intention d'écrire un ouvrage hagiographique. D'ailleurs, votre ouvrage ne l'est pas, il reflète à votre génération néanmoins, un grand respect pour le patron. Il présente un personnage dans sa complexité, c'est-à-dire à la fois dans un destin, puisqu'on le connaît, qui apparaît très clair, et en même temps avec un caractère très difficile. Mais il y a dans l'intimité que vous dépeignez de Hubert Beuve-Méry beaucoup très sympathiques qui font un peu basculer la notion d'Alceste ou de misanthrope ou de solitaire. J'aurais vous demander comment est-ce que vous avez pu accéder, étant jeune, ayant connu Beuve-Mérite, donc déjà, je dirais, dans l'époque presque de sa retraite, comment est-ce que vous avez pu accéder à cet ensemble de documentation d'une part, et je dirais de relations sous forme de confidences, entre guillemets, avec Hubert Beuve-Mérite.
Bon, disons que pour la première partie de la vie de Beuve-Mérite, c'est-à-dire son enfance, son adolescence, sa jeunesse, et disons toute la période qui concerne sa formation, en fait, je ne crois pas que j'aurais pu écrire cette biographie si je n'avais pas eu les entretiens que j'ai eus durant les trois dernières années de sa vie avec Sirius, le directeur du Monde. Parce que ces entretiens qui étaient extrêmement longs, toujours plusieurs heures, et extrêmement fouillés, en fait, m'ont mis sur les pistes que je n'aurais pas trouvées seul, dans la mesure où la mémoire d'Hubert Beuve-Mérite m'a permis, à chaque fois m'a mis sur telle piste de correspondance privée, telles archives, telles revues, aujourd'hui complètement oubliées, et dont parfois il est très difficile d'obtenir la collection. Donc, je crois qu'effectivement, sans ce contact personnel que j'ai eu avec Beuve-Mérite, toute la première partie de l'ouvrage aurait été difficile à reconstituer. Concernant la vie du Monde, la vie du journal, ou disons la vie politique et les contacts que Beuve-Mérite a eus avec des hommes comme François Mauriac, comme Raymond Aron, là en fait, j'ai procédé, j'allais dire, de manière très classique, en allant voir en fouillant dans les correspondances privées, en consultant à la Bibliothèque nationale un certain nombre d'ouvrages de souvenirs. Donc là, disons que les choses étaient plus simples.
Alors, je voudrais demander à Bernard Lauzanne ou à Jacques Nobécourt, qui sont les deux meilleurs témoins de la naissance et de la vie du Monde, quelle est leur opinion devant le travail de Laurent Grisamer. Je veux dire, comme toujours, quelle est la part de vérité qu'ils y sentent et la part, non pas d'infidélité, mais je dirais de manque qu'ils y ressentent.
Je crois que le livre de Grisamer donne un tableau extrêmement fouillé, extrêmement complet de la vie de Beuve-Mérite. Il complète d'ailleurs ce qui a été fait avant, notamment le livre de Jean-Noël Jeannet. Il apporte des éclairages nouveaux grâce aux témoignages qu'il a pu recueillir et aux confidences de Beuve-Mérite. Beuve-Mérite, pendant très longtemps, ne faisait pas beaucoup de confidences et lâchait sa documentation au compte-gouttes. Je crois que vers la fin de sa vie, il s'est rendu compte qu'il ne pouvait plus écrire lui-même ses mémoires et qu'il pouvait quand même livrer certains éléments encore inconnus et encore mal connus. Donc le livre de Grisamer est une somme du personnage Beuve-Mérite et également du Monde. Le personnage Beuve-Mérite, on reviendra tout à l'heure sur ses débuts, sa jeunesse, sur Uriage, mais le directeur du Monde pendant 25 ans avec tous les éléments qui ont pu être fournis par des témoins des débuts, puis de l'expansion du journal, jusqu'à la fin de la direction Beuve-Mérite, on y trouve de nombreuses anecdotes qui éclairent aussi bien la personnalité du directeur que l'évolution du journal pendant les très grandes crises de la décolonisation, de la construction européenne.
Jacques Nabécourt.
Ce que j'ai trouvé tout à fait intéressant dans la biographie de Grisamer, c'est la façon dont un rédacteur des jeunes générations a compris et a saisi à quel point, en créant le Monde, puis en le dirigeant, Beuve-Mérite était représentatif de cette école, de cette couche d'esprit qu'on ne découvre pas, mais dont on voit de plus en plus l'importance actuellement, qui était ce qu'on appelait les non-conformistes des années 30, dans la mesure où il y avait une continuité dans les préoccupations de Beuve-Mérite entre ce qu'il était jeune homme à l'Institut français de Prague, appartenant à tout un courant d'esprit qui souhaitait justement une révolution en France, des transformations profondes, d'où l'étape d'Uriage, et qui, d'une certaine façon, a fait dans le Monde, la plateforme d'une transformation, d'une rénovation, d'une révolution, non seulement de la politique, mais des intelligences des classes intellectuelles françaises dans l'après-guerre. Et une des raisons du prestige de la génération, que la génération antérieure à Grisamer, ou des générations antérieures à lui, du prestige que Beuve-Méry a exercé sur elle, c'était précisément à cause de cette continuité, cette volonté d'une réforme intellectuelle et morale allant bien au-delà de ce qu'était la 4e République et même la 5e. Et ça, Grelzamer l'a très bien fait saisir, l'a très bien senti. C'est un des principaux mérites de son livre. Ceci dit, évidemment, il a parlé à l'intérieur des limites que lui avait tracées Beuve-Méry lui-même, mais il a donné des orientations de recherche pour approfondir la place du monde dans la République, la place du monde dans la France de l'après-guerre, et encore la personnalité de Beuve-Méry.
Alors, Laurent Grelzamer, sur la personnalité de Beuve-Méry, je voudrais qu'on dise deux mots pour qui touchent à la première partie de votre ouvrage, qui est la partie avant 1940, dirais même avant 1938. Car la façon dont vous agencez les choses est neuve, dans la mesure où le personnage est au premier plan, c'est pas une sorte de portrait que vous faites comme ça, de chic. Il y a plusieurs traits, je crois, qui méritent d'être relevés. Je vais en relever un ou deux, puis vous compléterez. Il y a d'abord ce qu'on peut appeler une éducation parisienne issue d'un milieu de province breton qui le conduit, pour des raisons que vous expliquez, notamment le fait qu'il se trouve sans père très vite, à être éduqué dans le cœur de Paris dans des conditions d'extrême pauvreté, mais de très grande dignité dans ce petit peuple parisien du début du siècle, qui est encore d'ailleurs plus près du 19e que du 20e siècle, d'où résulte un certain nombre de traits de caractère que vous montrez très bien chez lui. D'abord l'endurance, d'autre part l'assaise, la capacité de solitude, liée du coup à la réflexion intérieure, le hasard qu'il met entre les mains des bons pères, l'éloignement de sa mère, autant d'éléments qui forgent un caractère, et dont on voit très bien qu'ils sont permanents, tels que vous les montrez ensuite au travail dans Le Directeur du Monde à partir de 1944, dans l'expression de ce qu'est Hubert Beuve-Méry, dans la façon qu'il a, au fond, de comprendre ce que doit être un Français, c'est-à-dire quelqu'un qui doit travailler, quelqu'un qui ne doit pas être sensible à l'argent, et quelqu'un qui doit être très personnel. Alors ça, c'est les traits, je trouve, qui sont nouveaux dans votre étude, c'est qu'on voit la personnalité de Beuve-Méry, à savoir que c'est quelqu'un qui cherche par lui-même, à travers une culture qui s'est forgée, et non pas quelqu'un qui rentre dans un moule. Ce qui donc est un tout petit peu contradictoire avec ce qu'on va voir tout à l'heure, qui est le principe de l'École nationale des cadres de Riage, qui précisément va chercher, Beuve-Méry va être directeur du bureau d'études, à donner les cadres généraux capables de former des élites. C'est-à-dire en fait, non seulement des élites, mais des élites en série.
C'est-à-dire, je pense qu'il y a, il y a deux plans. Sur le plan personnel, c'est vrai qu'il y a chez Beuve-Méry une sorte de d'extrême mélange entre une humilité et un orgueil fou. On peut prendre un seul exemple. Par exemple, lorsqu'il demande à sa future femme si elle est d'accord pour un mariage, il lui dit textuellement « Je peux végéter, je peux devenir clochard ou je peux devenir président des États-Unis d'Europe. » Et je crois que dans cette formulation qu'il adresse à sa fiancée, il y a un petit peu tout. C'est-à-dire, entre le clochard et le président des États-Unis d'Europe, il y a effectivement deux destins qui sont complètement antinomiques. Et sur un plan plus général, je dirais que c'est quelqu'un qui s'est forgé finalement dans la solitude, dans l'entêtement, mais épaulé effectivement, comme vous le disiez, par les bons pères. Et je crois que de cette formation qu'il a eue grâce à l'Église, grâce au catholicisme, il gardera toujours un très bon souvenir, contrairement à des hommes comme François Mauriac, qui ensuite n'auront de cesse de dire du mal de leur maître.
Beuve-Méry,
oui, mais disons que Beuve-Méry, lui, gardera toujours un excellent souvenir de ses professeurs, et que la nécessité et les vertus de la pédagogie lui apparaîtront comme essentielles. Et je crois que c'est pour cette raison que plus tard, dans les années 40, par exemple, il accordera tellement de prix à cette école des cadres du Riage, parce qu'il verra là, enfin, la possibilité de former correctement, de manière appropriée, la jeunesse de France. Alors, ça peut aujourd'hui nous paraître un peu curieux, mais je crois que chez lui, il y avait cette logique-là. Et en plus, cette conscience, j'imagine qu'on y reviendra, mais cette conscience extrêmement lucide et amère que la France dans laquelle il vit dans les années 30 est une France finalement complètement appauvrie sur le plan moral et intellectuel, une France qui va à la faillite. Et je crois que c'était un sentiment à l'époque assez partagé. Là, récemment, je lisais les mémoires du cardinal Lustiger et Le choix de Dieu, et lui-même disait avoir ressenti, alors qu'il était beaucoup plus jeune dans les années 30 et 40, à quel point la France se délitait et à quel point finalement elle partait à volo par défaut de colonne vertébrale, morale et intellectuelle.
Jean-Noël Jeannet.
Oui, à propos de cette préhistoire de Beuve-Méry, je crois que vous avez très bien fait, Philippe Levillain, de marquer l'importance décisive du refus de Munich. Ce qui est intéressant dans une biographie, c'est qu'on trouve presque toujours des rythmes lents, de longues maturations, et puis des moments clés, décisifs, qui sont importants à court terme parce qu'ils cristallisent une lente préparation et qui sont, dans bien des cas, importants aussi sur le long terme parce qu'après coup, ils prennent valeur symbolique. Or, cet acte est doublement symbolique chez ce solitaire, chez cet exilé. N'oublions pas qu'il vit ses années des années 30 loin de Paris, en Tchécoslovaquie, avec le regard distancié que cela peut donner sur le pays. Chez cet homme qui donc n'est pas dans le cours des choses, il y a là une lucidité qu'après coup l'histoire ratifiera. Cela veut dire que, en politique étrangère, pour la suite, cet acte le qualifiera en 1944, en dépit de toutes les incertitudes que dans l'intervalle peut comporter l'expérience du Riage, on y reviendra. Puis un autre aspect de cet acte essentiel qui est un cri contre ce qu'est devenue la presse française. Je crois que là aussi c'est important quand on sait qu'il va devenir, quand on réfléchit à ce qui va le faire émerger comme le fondateur du Monde si jeune en 1944. Il était en position de Prague de voir vraiment cette presse parisienne dans ce qu'elle avait de moins ragoûtant. Et même pour tout dire de franchement vénal et parfois dévergondé. Il a vu arriver une série de correspondants qui accompagnaient des ministres. Il a vu ce que devenaient ses propres enquêtes lorsqu'il les envoyait et qu'elles étaient tripatouillées à Paris, au marbre, dans les journaux qui souhaitaient les faire servir à d'autres intentions. Il a vu très bien, mieux que d'autres, ce que cette presse de l'entre-deux-guerres qui était si flamboyante, si brillante avant le règne de la télévision et même le règne dominateur de la radio, qui était si magnifique, ce qu'elle avait aussi en même temps de profondément pourri. Et par là même, il touchait un aspect essentiel de la dégradation de la démocratie dans les années 30, et par là même, il se qualifiait ensuite, dans l'esprit né à la fois du Riage et de la Résistance, de rénovation des mœurs de la presse, il se qualifiait parmi d'autres, mais au premier rang, pour pouvoir être un des acteurs de ces journaux rénovés. Je crois qu'il valait la peine, et le livre de Calzamer le fait très bien, de s'arrêter un instant sur ce moment fondateur.
D'ailleurs, la lettre de démission envoyée à José Barthélémy est intégralement citée par Laurent Grézamer, qui dit qu'il l'a écrit, enfin que Beuve-Méry l'a écrite en signalant l'écriture, les jambages qui se touchent. Donc vous faites une espèce d'analyse de la calligraphie pour montrer qu'il est dans un état d'énervement, d'amertume, qui d'ailleurs est un passage très, très beau. Vous payez le personnage de près.
Barthélémy n'était pas un dirigeant du Temps,
mais il était éditorialiste.
Il avait écrit dans le Temps, avec toute son autorité de juriste, un article qui justifiait l'abandon des Tchèques à Munich.
Bernard Lauzanne.
Oui, je voulais revenir sur ce que vous aviez dit tout à l'heure sur la révolution par la loi qui était citée, qui était une des formules essentielles du premier éditorial du Monde. Et je crois que ça n'était pas du tout... c'était un terme qui correspondait à l'époque à ce que nous souhaitions, nous, les anciens combattants, anciens prisonniers, anciens déportés, revenant dans la presse. Vous avez cité tout à l'heure, je crois que c'est Grelzamer, a cité ce désir de reconstruire, de refaire un peu le pays et la France dans un monde nouveau. Et cette révolution par la loi, c'était cela. C'était pas du tout, je pense, une allusion à la Révolution nationale.
Ah non, c'est pas ce que j'ai voulu dire.
C'est cela. C'était une véritable suite de ce qu'a pu faire proposer le programme du Conseil national de la Résistance. Et il y avait dans tous ces milieux qui justement refusaient la presse d'avant-guerre, la presse pourrie, la presse achetée, la presse du Comité des Forges, comme était le temps. Il y avait le désir de fonder partout des institutions nouvelles et beaucoup plus propres. Et je crois que c'est ce qu'a voulu faire à ce moment-là Beuve-Méry avec sa petite équipe.
Bernard Comte.
Et j'ai beaucoup apprécié l'ensemble du livre de Laurent Grelsamer, qui est si vivant, si bien écrit, et, mais plus particulièrement peut-être ce qui concerne cette période de Prague, les années 28 à 39, où, dont il a, Beuve-Méry, une trentaine d'années. Quand il part à Prague, c'est un jeune homme, un étudiant en droit, qui vient de passer son doctorat, qui n'est pas connu, qui n'a pas d'influence, et on le voit au cours de ses années de Prague, prendre progressivement une stature, cette stature complexe qui fait l'intérêt, la richesse du personnage. Il devient journaliste, il l'était déjà, mais de manière très modeste, il devient grand journaliste, un observateur politique qui sait se renseigner, s'informer, faire ce travail de critique. Laurent Grelsamer a une belle formule lorsqu'il dit comme un alambic, il filtre sans cesse les rumeurs et les informations. Donc un des hommes qui connaissent le mieux finalement l'Europe centrale. Et puis en même temps, il reste l'intellectuel, bon, il est professeur, en même temps il reste l'intellectuel, et cet intellectuel moraliste qui est le talent, la vertu propre de Beuve-Méry. Il n'a pas été vraiment un professeur, un enseignant, enfin, je veux dire, c'est pas ça qui l'a marqué le plus. Il est à la frontière du journaliste, de l'homme d'information, de l'enseignant, du pédagogue, ce qui était important pour lui, et en même temps de ce moraliste sarcastique qui s'amuse à démolir les solutions faciles pour stimuler, pour obliger les gens à aller plus loin. Et il devient, au moment de Munich, comme le dit Laurent Grelsamer, prophète inspiré, et il devient un homme d'influence, capable de rencontrer, d'éduquer, de stimuler un grand nombre de gens. On comprend mieux ce qui se passera à Uriage, et on comprend mieux ce qui se passera à partir de 1944 au Monde, en connaissant ces 12 années tellement dramatiques pour l'Europe, et de son observatoire, Beuve-Méry a su voir à l'avance, souvent.
Jacques Nobécourt.
Oui, je voudrais diverger un peu de Bernard Lauzanne sur un point. Je reviens au phénomène des générations. Quand Bernard Lauzanne dit que, au fond, le programme que Beuve-Méry propose en décembre 1944 rejoint celui du Conseil national de la résistance, je me souviens très bien qu'à cette époque, être lecteur du Monde, c'était déjà une qualification, comme maintenant, mais c'était une autre qualification. À la première armée où j'étais, on recevait dans les Vosges, en Allemagne, on recevait Le Monde et on recevait Combat, en s'y abonnant. Et on ne lisait que Le Monde et Combat, le combat d'Albert Camus. Mais pour une raison essentielle, c'est que Le Monde et le combat de Camus, à cette époque-là, étaient détachés d'une certaine orthodoxie politique trop prégnante, trop contraignante, qui semblait régner à Paris. Et que les adolescents, les hommes de 20 ans, enfin, qui ne faisaient que la dernière partie de la guerre, qui n'avaient pas fait la première, surtout dans un climat comme celui de la première armée, où il y avait tout de même 200 000 hommes, mais même à l'intérieur dans les universités, avaient été pris dans des expériences qui étaient, ou les chantiers de jeunesse, ou les équipes nationales, une certaine mouvance de l'évolution intellectuelle que le régime de Vichy portait avec d'autres, la mouvance, disons, d'esprit, une certaine mouvance de personnalisme qui avait débouché dans la résistance, mais qui n'entendait pas pour autant revenir dans les voies d'une politique partisane, d'une politique extrêmement rigide, telle qu'elle se concrétisait dans les mois et l'année ou les deux ou trois années qui ont suivi le régime du général de Gaulle. Le Monde et le combat de Camus représentaient des asiles de liberté intellectuelle par rapport à d'autres journaux de Paris, d'indépendance intellectuelle et également d'un certain état d'esprit non partisan qui, en d'autres domaines, était illustré par les polémiques entre Mauriac et Camus.
Si je vous comprends bien, vous voulez dire par là, Jacques Nobécourt, que dès 1944, et contrairement à ce que, comme je le disais tout à l'heure, vous pourrez croire un esprit naïf, Le journal Le Monde avait pris ses distances vis-à-vis du général de Gaulle et des années 44-45. C'est ça.
C'était le sentiment qui régnait, que j'ai cru retrouver, il n'y a pas très longtemps encore, en reprenant les collections de cette époque-là. C'est qu'il y avait beaucoup plus de distance que la légende ne l'a dit.
Bernard Lauzanne.
Oui, je pense que cette distance est apparue au fil des années. Mais je crois qu'en 1944-1945, je suis entré, comme vous l'avez rappelé, que fin 1945, je crois quand même que dans les 24 premiers mois du Monde, on était assez proche quand même des idées du général de Gaulle. Quand je disais tout à l'heure Conseil national de la résistance, je n'ai pas voulu dire que le Monde était là pour appliquer ou pour mettre en valeur le programme du Conseil national de la résistance. C'est simplement l'idée qu'on voulait une révolution par la loi, c'est-à-dire de très grandes réformes. Et ces grandes réformes, nous les avons vues ensuite, sont des réformes de structure de l'Empire français, c'est-à-dire la décolonisation, et ensuite des réformes sur le plan diplomatique, la construction européenne.
Bah, c'était pas du gaullisme.
Laurent Gadamer.
Oui, bah, sur cette formule de révolution par la loi, on peut peut-être rappeler d'un mot que c'était une formule à l'époque relativement courante, dans la mesure où finalement le terme de révolution, aujourd'hui on le reçoit, enfin je parle peut-être pour les jeunes, mais on le reçoit toujours comme une volonté de faire la révolution, et souvent par la violence. À l'époque, bien évidemment, l'expression révolution par la loi indiquait bien qu'on voulait une révolution pacifique, mais en fait c'était, disons, un concept beaucoup plus utilisé par exemple par les démocrates chrétiens. Cette révolution...
Pas tous,
non, bien sûr. Cela dit, il y avait... Moi je retrouve, par rapport à cette formule un petit peu générale, moi, je retrouve beaucoup la personnalité de Beuve-Méry, qui s'est toujours considéré, à la grande surprise parfois de ses contemporains, comme un révolutionnaire. C'était un homme d'ordre, il aimait bien l'autorité, mais en même temps, il se vivait comme un révolutionnaire, comme un anticonformiste. Et finalement, dans les années 30, c'est vrai qu'il a fait partie, comme on le rappelait tout à l'heure, de ces jeunes non-conformistes qui critiquaient la démocratie parlementaire, qui critiquaient le règne de l'argent. Et on le retrouve donc, après-guerre, également porteur d'une révolution, mais cette fois-ci d'une révolution morale. Et il n'aura de cesse, je crois, à la direction du Monde, finalement, de vouloir imposer non pas des idées politiques, comme souvent le public l'a cru, mais des idées proprement éthiques.
Alors je crois que le mot que vous venez de prononcer, Laurent Grisamer, donne la clé d'un problème fondamental, à savoir, est-ce que c'est qu'une révolution morale ? Ça peut être aussi assez près d'une révolution qui ramène à ce qu'a été une inspiration de la révolution nationale. Est-ce que c'est une révolution par la loi ? Est-ce que c'est vraiment le type de révolution qui est cherché par, entre autres, les démocrates chrétiens et tout simplement des républicains, je dirais ? Ça pose le problème de l'ambiguïté de l'attitude et de la formation intellectuelle de Beuve-Méry. Ça met au cœur de ce qu'est l'ambiguïté de l'École nationale des cœurs d'autoriage, Bernard Comte. Parce que vous avez fait un travail fouillé, qui est une monographie absolument admirable, dont il sortira le plus gros prochainement, mais précisément pour essayer de réagir contre ce qui, vous le dites vous-même dans votre introduction, était acquis comme une sorte de vulgate, à savoir que l'École nationale des cadres du Riage, fondée sous Vichy, dissoute sous Vichy, se prolongeant ensuite à travers des élites dispersées qui sont rentrées, qui ont peuplé les rangs des FFI, participant à la résistance et à la libération, a donné le sentiment d'être une espèce de lieu que je dépeins, parce que, je veux dire, c'est le début de l'introduction, à une douzaine de kilomètres de Grenoble, la petite station thermale d'Uriage se tire au fond d'une vallée étroite qui borde la chaîne de Belledonne, tandis que le vieux village de Saint-Martin-d'Uriage, devenu au XXe siècle centre de villégiature, occupe le plateau qui la domine. Donc, qui est un havre fortifié, qui est parce qu'au lieu où effectivement la résistance autour duquel pourra s'organiser, et dont vous dites bien que la vulgate a consisté à dire que c'est par là qu'au fond une série d'élites sont passées de Vichy à la résistance, par une sorte de... Or, vous montrez que c'est beaucoup plus complexe et qu'il y a un dessein auquel participe Beuve-Méry. Je disais tout à l'heure qu'il devient chef de la mission du bureau d'études en 1941, mais déjà 1941, c'est l'école du Riage à près d'un an, et c'est ça que vous montrez, c'est-à-dire qu'en fait, il y a là la cristallisation, non pas d'une synthèse, mais à la limite de ce qu'on peut appeler une séparation entre ce qu'auraient pu être les élites de la Révolution nationale et ce que donnent les élites issues du Riage. Bernard Comte. Je ne sais pas si je vous ai bien résumé, mais c'était pour faire avancer.
Bien sûr, si vous me donnez deux minutes, je vais rappeler en quoi a consisté cette institution un petit peu étrange. C'est ce qui a fait créer tant de légendes et de mythes autour d'elle. C'est une de ces institutions de jeunesse qui naissent dans l'été 40, dans le cadre du régime de Vichy et de la prise de parole du maréchal proposant une, il n'a pas encore parlé de révolution, mais proposant de refaire la société française. C'est donc une institution officielle et qui s'adresse à la jeunesse. On dit souvent école du riage, école des cadres, c'est l'école nationale des cadres de la jeunesse et non pas de l'ensemble du gouvernement ou des ministères. Alors l'homme clé, c'est le fondateur, le capitaine de cavalerie du noyer de Segonzac, qui est un officier patriote, bien sûr, catholique, en même temps un éducateur, lui aussi un pédagogue, un éducateur rentré, peut-on dire, parce que dans l'armée d'avant la guerre, il n'a pas pu développer la conception héritée de Lyautey qu'il avait d'une armée éducatrice de la jeunesse. Il se croit apolitique, bon, c'est bien sûr ambigu, et compliqué. Et son idée dans l'été 40, c'est qu'il a été traumatisé par la défaite, bien sûr. C'est donc qu'il faut deux idées. Qu'il faut d'une part préparer la reprise du combat, libérer la France. Il n'est pas hostile à l'armistice, il l'accepte comme il accepte le régime, mais il pense que l'aboutissement de tout ça, de cette pause, ça doit être la reprise du combat et la libération. Et puis deuxième idée, il faut reconstruire une communauté française, comme on l'a rappelé tout à l'heure, il a eu aussi le sentiment que la France se défaisait, la société française se défaisait dans les années précédentes. Il faut reconstruire une société nouvelle. Et le moyen pour tout ça, c'est les élites. S'adresser aux élites parce qu'ils pensent, analyse un peu simple, dirons-nous aujourd'hui, bien sûr, un peu rapide, ils pensent que c'est la démission ou la faillite des élites qui est la cause de la défaite. Donc la clé, c'est de permettre à de nouvelles élites de s'affirmer et de préparer la reprise du combat. Et pour cela, donc, il va organiser des stages sous l'égide du secrétariat général à la jeunesse, qui a besoin lui-même de cadres pour encadrer la jeunesse. Donc, il va organiser des stages, et je vais reprendre ce que vous disiez au début, Philippe Levillain, c'est pas le moule de la jeunesse ou des élites. Mais son école du riage, c'est plutôt un lieu où on va détecter ceux qui sont capables, dans tous les milieux, ceux qui sont capables d'être membres des élites, de faire partie de l'élite. Et ces gens qu'on va détecter, on ne va pas tellement les former dans un moule. On n'a pas le temps, ça dure 15 jours ou 3 semaines. C'est très rapide, un stage du riage. Mais on va leur donner un esprit et en même temps, on va leur donner l'élan pour en faire des reconstructeurs de la société française et de futurs combattants. Alors l'équivoque, bien sûr, c'est que ça se situe sous le régime de Vichy, en acceptant, en gros, le programme du maréchal Pétain et de la Révolution nationale, ça, on pourra en parler tout à l'heure. Alors je donne les grands traits de l'évolution. Il y a un aspect pédagogique, des stages, un journal, des rencontres, etc., qui ont un certain succès dans ce milieu très riche des mouvements, des organisations de jeunesse de cette époque. Il y a deuxièmement un esprit commun. Alors, Duinet de Segonzac prétend réaliser une synthèse entre toutes les composantes de la tradition française. Au début, il pense que ça devrait aller de Maurras à la CGT. Côté Maurras, c'est
un éventail très large.
S'exclut lui-même assez vite. La CGT, ça reste marginal. Et c'est, comme on le disait, comme Jacques Comécourt le disait tout à l'heure, c'est autour d'une vision personnaliste, mais qui comporte elle-même un pluralisme et une ouverture à ceux qui sont différents. C'est autour de cette vision personnaliste que va se créer cet esprit du riage, bon, qui prétend en même temps inventer une pédagogie globale, où le corps, le caractère, l'esprit, le cœur sont tous traités, chacun à sa place. Et puis, troisième aspect, il y a une politique. Il y a une politique, c'est là que Beuve-Méry va jouer un rôle essentiel, parce que c'est lui qui va être la tête politique de l'évolution du riage. Au début, on est apolitique, on accepte le régime du maréchal, on est persuadé que le maréchal cherche les mêmes choses que ce qu'on cherche, c'est-à-dire reprendre le combat et faire une société française plus généreuse, plus harmonieuse, plus équilibrée. Et c'est Beuve-Méry qui va obliger Dunoyer de Segonzac et ses amis à se rendre compte que dans le régime de Vichy, il s'agit d'autre chose que que ce qu'il croit, ou qu'il y a de tels handicaps, de tels boulets que traîne ce régime, qu'on ne peut pas compter sur lui pour faire cette révolution qu'on cherche. Et cette évolution politique, alors en plusieurs étapes, ça amène à prendre ses distances avec le régime, à critiquer la collaboration dès le début, la refuser, la critiquer de plus en plus ouvertement. Et puis lorsque Pierre Laval devient chef du gouvernement en avril 1942, l'école du Riage est tout à fait étrangère, opposante, marginalisée ou un peu persécutée, ce qui amène finalement la suppression de 1942. Et à ce moment-là, pour donner de seconds actes, si le régime de Vichy ne lui permet plus de faire son travail d'éducateur, c'est pour passer tout naturellement à un autre travail qui consiste toujours à préparer la libération par d'autres moyens. On peut dire en somme, la conclusion, ce serait, mais c'est une conclusion partielle, hypothétique ou partielle ou subjective, si vous voulez. Ma conclusion, ce serait que, et c'était tout à fait ce que pensait Beuve-Méry, on en a parlé souvent, on peut difficilement dire de la révolution nationale à la résistance, mais c'est d'une certaine forme de résistance morale qui acceptait la révolution nationale vers la perte des illusions sur la révolution nationale et la rupture totale avec elle et donc la résistance.
Jeannet.
Vous avez rejeté tout à l'heure le mot d'ambiguïté, et je le comprends. Néanmoins, on voit un aspect qui est très important et qui vient introduire un clivage, me semble-t-il, avec d'autres choix de 1940. Comme vous l'avez très bien rappelé, l'équipe du Riage pense à ce moment-là que sous le régime de Vichy, il est possible d'avancer en termes moraux, de faire des réformes. Ce ne sont pas les réformes conservatrices de droite, d'extrême droite que des mouvements s'efforcent d'introduire au même moment par Vichy. Mais du même coup, il y a séparation avec tous ceux qui d'emblée ont dit on ne peut rien faire dans cette situation telle qu'elle est. On ne peut rien faire tant que l'Allemagne occupera la moitié du pays. On ne peut rien faire tant qu'est au pouvoir un régime qui, au sens propre, est un régime de réaction. Même à l'extrême droite, même dans les milieux conservateurs, un certain nombre de gens ont dit peut-être s'efforce-t-il à Vichy de défendre nos idées, de les introduire dans le tissu social, mais ils vont les compromettre. Car sous la botte allemande, sous l'autorité allemande, en période de collaboration, ça n'est pas possible. Ce qui m'intéresse après coup, c'est que à Uriage, pendant un premier temps, on a fait un choix inverse. Il ne s'agit pas de jeter un regard moral rétrospectif, c'est trop facile, mais de comprendre pourquoi ensuite Uriage a pu être jugé de façon assez différente, ici ou là, jusqu'aux excès de Bernard-Henri Lévy, qui dans un livre connu a voulu y voir une sorte de matrice parmi d'autres d'un certain fascisme français.
C'est tout à fait vrai. C'est tout à fait vrai. Il y a, on peut dire aujourd'hui avec le recul, bien sûr, ça apparaît très nettement, l'illusion d'une souveraineté de Vichy. L'illusion d'une souveraineté de ce qu'on a appelé quelquefois le royaume du maréchal. Avec peut-être une nuance pour excuser ou expliquer cette illusion, second acte se prétendait apolitique, se croyait apolitique, prétendait faire un travail essentiellement éducatif. Et les relations au début du maréchal avec les Allemands, il le laissait, c'était son affaire. Lui prétendait faire un travail non politique. Est-ce que c'est possible de faire un travail non politique, surtout dans une telle période?
Non.
Bien sûr,
non.
C'est la question qu'on peut poser, bien sûr.
Oui, Laurent Grézamer, je voudrais, avant de vous donner la parole, dire que dans votre livre, vous consacrez un chapitre que vous appelez le chevalier du Riage, au passage, plus qu'au passage, à l'influence que joue Beuve-Méry dans l'école nationale des Cardeillages, que vous rappelez qu'on l'appelait le renard, ça fait une épithète de plus, mais que vous intitulez à des sous-chapitres « Voyage en utopie », ce qui fait que par rapport à la thèse de Bernard Comte, où on finit par avoir un faisceau de réalité spirituelle destinée à opérer cette révolution par la loi, ou cette révolution spirituelle, on va y venir tout à l'heure, vous donnez le sentiment que, d'après le biographe que vous êtes, au fond, Beuve-Méry a trouvé un lieu de tranquillité où il a pu vivre en ascète, vous le rappelez, quoi qu'il y fût avec sa famille, mais enfin dans cet endroit très cistercien, vous le dites, et que là, il a en quelque sorte fait une étape, qu'il était en transit. Vous n'apportez moins d'importance que n'en fait Bernard Comte au passage de Beuve-Méry et Uriage.
Oui, c'est-à-dire que ça se comprend dans la mesure où, bon, moi je suis biographe et que je m'intéresse... Avant tout.
C'est pas reproche.
Non, bien sûr, non, mais j'essaye d'expliquer parce que je crois que c'est quand même un important. C'est que, comme l'a rappelé Bernard Comte, Uriage naît au cours de l'été 40. Et effectivement, son fondateur, ce n'est pas Beuve-Méry, mais c'est bien le capitaine de cavalerie de Neuilly de Segonzac. Et dans cette aventure d'Uriage, qui va en fait durer durant toute la guerre. Hubert Beuve-Méry n'intervient réellement qu'à partir de juin 1941. C'est dire qu'il y a presque un an qui s'est passé, que l'école, effectivement, est partie du vichysme pour évoluer, et que Beuve-Méry n'entre dans cette aventure qu'un an après sa fondation. Et je crois qu'effectivement, le poids de Beuve-Méry va être important. Il va jouer un rôle qu'il adore jouer, c'est le rôle du conseiller de l'éminence grise. Il va influer, il va peser sur Dunoyer de Segonzac, au point progressivement de décaler l'école, de la décrocher du vichysme, non pas pour la conduire vers une résistance armée active, mais effectivement pour l'ancrer dans une résistance intellectuelle. Alors, cela dit, sur un autre plan, sur le plan plus personnel, moi j'ai l'impression, au travers des conversations que j'ai pu avoir avec Beuve-Méry, et puis au travers des documents que j'ai pu lire, que Beuve-Méry a considéré effectivement l'expérience d'Uriage plus comme une utopie, comme un grand voyage personnel, que comme une réalisation très concrète. Je ne sais pas si je suis très clair, mais pour résumer tout ça, disons d'une phrase, j'ai l'impression que Beuve-Méry a cru pendant la guerre que tout était fichu, que la France allait complètement s'effondrer, et que la France allait s'effondrer non pas pour 3 ans, 4 ans, 5 ans ou 10 ans, mais peut-être pour un siècle. Et qu'il a espéré dans ce château, puisque Uriage se trouvait dans le château de l'ancien chevalier Bayard, il a espéré recréer une sorte de lieu magique où il pourrait régénérer non pas toute la France, mais une petite élite, une sorte de petit flambeau.
L'image, c'est celle des monastères après l'invasion des barbares.
Oui. C'est d'ailleurs, il y a un paragraphe dans votre livre qui est très beau sur les allégories. Bernard Lauzanne.
Oui, je crois qu'en effet, c'était une sorte d'utopie pour lui. Mais cette utopie, il a voulu la recréer rue des Italiens. Et au fond, il ne croyait pas non plus que le monde durerait longtemps. Vous vous rappelez dans votre ouvrage que chaque année, en décembre, à l'anniversaire du journal, on avait droit à un petit discours nous disant « Écoutez, ça s'est pas trop mal passé cette année, mais je ne sais pas si l'an prochain nous pourrons encore faire cette petite fête. » Et c'était une utopie. Je crois qu'Uriage a été pour lui quand même une sorte de préparation à cette tâche. Il envisageait, quand il s'est marié, la présidence des États-Unis d'Europe, mais enfin, il envisageait certainement une mission à un certain moment. Et Uriage a été une préparation. Il en parlait beaucoup à la fin de sa vie. C'était évidemment après 80 ans, mais même lorsqu'il dirigeait le monde, de temps en temps, lorsqu'on avait une conversation avec lui, ce qui était rare, Uriage apparaissait. Et je pense que ça a été, comme on l'a dit, un vivier d'énergie, et le monde a été un vivier de vérité. Il a essayé de transférer sur son journal les méthodes et qu'il avait acquise à Uriage, et en particulier cette pédagogie du silence, en quelque sorte, car nous l'entendions très peu au cours des conférences du journal, mais les silences de Beuve-Méry nous montraient vers quelle voie il voulait aller sur telle information, sur tel commentaire.
Bernard Comte.
Oui, utopie, bien sûr, surtout avec l'idée de l'ordre qui commencera à prendre corps pendant les années clandestines après la fermeture de l'école en 1943-1944. Mais utopie réaliste en même temps, efficace, je crois qu'on ne peut pas séparer, et c'est ça qui rend cette aventure un peu fascinante, on ne peut pas séparer les deux aspects. Avec le grand projet de reconstruction, ce que disait Jean-Noël Jeannet tout de suite, les barbares, l'ère des barbares, et comme les monastères au Moyen-Âge. Mais en même temps, un monastère qui fonctionne et qui est tout à fait en prise sur un certain nombre de réalités sociales. Et ça, c'est ce que j'ai essayé de regarder de plus près. Les relations de l'école d'Uriage avec les organisations de jeunesse, les catholiques, les protestantes, les scouts, les laïcs, celles qui sont plutôt de gauche, il y en a eu quelques-unes qui ont pu survivre sous Vichy. Les relations avec ce secrétariat de la jeunesse qui finance l'école, et donc les relations avec toute une partie de la vie sociale, une partie importante de la vie sociale, de la vie intellectuelle de la vie politique française, dont Uriage est porté par une utopie, c'est en même temps une réalisation efficace, et Beuve-Méry y a beaucoup contribué. Et il est très frappant de voir combien il insiste toujours, il était là tout à fait en accord avec ses officiers, avec qui il n'avait pas grand-chose de commun, autrement, la pensée pour l'action. Jamais, et c'est là que Beuve-Méry est un type d'intellectuel particulier, comme il le sera au monde, on pense, on réfléchit beaucoup, on est animé par une vision intellectuelle et morale, mais c'est pour agir, pour réaliser avec ténacité, patience, etc. Et là, il a apporté tout à fait son jeu, Uriage. Il y a une autre chose que je voulais ajouter très vite à propos de ce qui a été Uriage dans ces 9 mois avant l'arrivée de Beuve-Méry, c'est vrai que c'est Beuve-Méry qui, sur le plan politique, et je retiendrai une seule phrase, sur le plan politique, a commencé cette œuvre de dissociation entre Uriage, qui collait auparavant au maréchal Pétain, à son prestige, etc. Une phrase, c'est Beuve-Méry qui dira le premier, la libération du territoire est la condition sine qua non de toute révolution et de toute reconstruction. Alors là, les choses sont nettes. L'ordre des priorités ont changé. On ne reconstruit pas pour libérer, mais on prépare la libération pour qu'une reconstruction soit possible ensuite. Ça, c'est un texte qui n'est pas daté, malheureusement, mais qui date au moment où il a noué la relation avec l'école, au printemps 41, je crois. Et puis, l'autre chose, c'est qu'il y a un choix qu'Uriage avait déjà fait, là aussi un choix complexe et ambigu, sur le plan de l'inspiration philosophique. Du Noyer de Sulonzac, qui était un de ses officiers, fonceur, homme d'action, entraîneur d'hommes, mais qui savait l'importance de la réflexion philosophique et des choses intellectuelles. Et sur le plan philosophique, Uriage a choisi en décembre 40, et ça a été définitif, de se lier à Emmanuel Mounier et Jean Lacroix, les philosophes qui avaient fondé Esprit 18 ans plus tôt, de se lier à eux et non pas au maurrasisme ou à une autre des idéologies qui avaient cours sous la France de Vichy. Alors ça, c'est le rôle d'Emmanuel Mounier qui fait reparaître Esprit, c'est une autre question.
C'est-à-dire au personnalisme chrétien.
Le personnalisme, ce personnalisme communautaire, la personne et la communauté, oui.
Jean-Noël Jeannet.
Juste un mot, en suivant l'intervention de Bernard Lauzanne et celle de Bernard Comte, le parallèle entre Uriage et le monde, je me disais qu'il doit arriver assez souvent en histoire, paradoxalement, qu'un pessimisme trop sombre se trompe. Dans les deux cas, Beuve-Méry se trompe. Il croit que la France est fichue pour très longtemps. En face de lui, ce sont les gens de Londres qui ont raison, en l'occurrence. Dans le cas du monde, il vient vous dire, année après année, que ça ne marche pas du tout. Je ne dis pas que le monde est éternel. Je souhaite qu'il dure encore longtemps, mais enfin, il dure toujours. Et on voit néanmoins que ce pessimisme qui égare l'analyse est néanmoins fécond du point de vue de l'action. C'est un paradoxe intéressant.
Mais on a dit que c'était un pessimisme teinté d'espérance.
C'est peut-être la formule de Gramsci, le pessimisme de l'intelligence et l'optimisme de la volonté, qui correspondrait peut-être bien au personnage, apparemment.
Il y a un point sur lequel je voudrais qu'on s'arrête une minute ou deux, parce qu'on a beaucoup parlé justement de la différence qu'il y a entre une action spirituelle et pas d'action politique, du Noyer de Segonzac, on a parlé du moralisme de Hubert Beuve-Méry. À Uriage, on a parlé tout à l'heure du caractère monastique et de la vie et du style. À Uriage, il y a tout de même une confrontation entre Hubert Beuve-Méry et un certain nombre de grands catholiques résistants, dont le père de Lubac. On y joue du Claudel. La référence, c'est Péguy, qui est une autre référence que Mounier. Cette référence de Péguy, d'ailleurs, Beuve-Méry la partage avec le général de Gaulle. Et il y a en commun chez Péguy, pour eux deux, le refus abominable de la puissance de l'argent dans la cité. Il y a d'autres aspects aussi. Mais il y a une chose, alors, Laurent Grésamer, que je posais, une question que je me posais en lisant votre livre. Qu'est-ce qu'on peut dire, au fond, de, je dirais, la religion, sinon la foi d'Hubert Beuve-Méry, qui compte, parce que c'est pas uniquement une attitude morale. Vous parlez-vous d'un agnostic très chrétien, qui est une formule qu'en termes de grammaire on appelle un oxymore, parce que je veux dire, on ne peut pas mettre moins avec plus. Mais je ne veux pas dire par là qu'il faille chercher ce que la conscience religieuse de Beuve-Méry a pu alimenter dans ses entreprises ensuite journalistiques, mais c'est un problème qui est un problème de mentalité.
Oui, c'est-à-dire qu'il était difficile de résumer l'attitude, les rapports de Beuve-Méry par rapport à l'Église en une formule, dans la mesure où Il a beaucoup évolué de l'enfance extrêmement pieuse, de l'enfant qui lit avec ravissement une vie de Lacordaire et qui se destine à la prêtrise.
Lacordaire, restaurateur de l'ordre dominicain en France, voilà, ça aussi, ça compte.
Oui, de l'adolescente qui a été tertiaire de l'ordre de Saint-Dominique et qui a été véritablement le confident, le secrétaire du père Janvier, qui était un ecclésiastique de haut vol dans les années 20, jusqu'à l'homme, celui qu'on connaît en fait, jusqu'à Sirius, le patron du monde, qui a été un homme agnostique. Je veux dire, c'est difficile de résumer cette vie spirituelle en une phrase. En fait, je crois que c'est effectivement un homme extraordinairement marqué par la culture catholique, qui est véritablement... qui est resté tout au long de sa vie, même lorsqu'il était agnostique, en relation avec des prêtres, des hommes comme le père Chenu, qui a en permanence lu des revues théologiques, qui a toujours conservé une sorte de cordon ombilical avec cette Église. C'est tout de même un homme qui s'en est détaché progressivement. Mais j'allais dire, il s'est détaché de la foi, mais jamais de l'Église. Et c'est ça un petit peu qui est extraordinaire, finalement. C'est que durant toute une période de sa vie, dans les années 60-70, c'est un homme qui n'a plus cru en Dieu, mais qui a toujours gardé un lien extraordinairement confiant avec les hommes d'Église. Et il est extraordinairement difficile de parler de ce sujet, parce que bon, on peut difficilement en parler à la place de l'intéressé, mais je crois tout de même que dans les dernières années... il y a eu chez lui une sorte de regain de bienveillance par rapport à Dieu. C'est tout ce que je pourrais dire.
C'est une très jolie formule. Jacques de Bécourt.
Oui, sur ce point, je pourrais préciser, en ayant été le témoin, des relations, quand j'étais correspondant du Monde à Rome, des relations de Boeuf-Méry avec l'institution. Au cours d'un voyage en 1968... un an avant qu'il ne donne sa démission, il était venu à Rome pour voir Paul VI. Et il l'a vu longuement, et leur entretien a repris exactement sur le point où il l'avait quitté en 1952, quand Boeuf-Méry était venu parler à Mgr Montigny de l'affaire des prêtres ouvriers qui se jouait en France à cette époque. En qualité
dans laquelle le père Chenu, justement, avait été impliqué, ce que disait tout à l'heure Henri Zamère, ça compte.
Et il avait obtenu à cette époque-là un certain nombre de mesures d'adoucissement ou de temporisation. Et quand il a revu Paul VI, l'entretien a duré près d'une heure dans le cabinet particulier du pape. Et ensuite, je l'ai un peu promené à travers l'Italie. C'était en mois de novembre, on a même fait... Alors là, c'était le Boeuf-Méry alpiniste... qui a voulu, en plein mois de novembre, faire l'escalade de l'Etna, qui s'est terminée dans un brouillard considérable. Mais c'était vraiment le sportif. Son entretien... Et ensuite, à la suite de cet entretien, il m'a longuement parlé de l'indulgence et de la compréhension qu'il fallait avoir pour l'institution, et en disant, ça n'est pas du tout une question de foi, mais c'est une grande institution, et il faut être pondéré dans le jugement qu'on porte sur elle. Elle évoluera, mais soyons patients.
En parlant de l'Église.
En parlant de l'Église.
En 62, il y avait des motifs de le penser.
Non.
En 52.
En 69.
69,
oui. 69.
Bernard Comte.
Oui, j'allais dire simplement que ça reste un mystère, l'attitude religieuse profonde de Boeuf-Méry. Et je crois que Laurent Grelzamer n'a pas tort. Il était resté attaché à l'Église plus qu'à la foi. Mais moi, j'aurais envie de dire le contraire aussi. En même temps, il était éloigné de l'Église, je veux dire, en tant que les chrétiens se reconnaissent membres fidèles, soumis à la hiérarchie ecclésiastique. De ce point de vue-là, il était en dehors, et il était peut-être attaché à l'Évangile plus que beaucoup de chrétiens. C'était peut-être une des raisons, justement, l'infidélité des chrétiens, pour lesquelles il préférait se tenir dans cette situation marginale.
Bien, écoutez, je crois que là, à partir de ce point, on rentre dans le domaine de l'ineffable. Donc, je voudrais qu'on revienne au journal Le Monde, parce que c'est le cœur du débat, je veux dire, dans la mesure où je disais tout à l'heure que Boeuf-Méry et Le Monde sont inséparables, on ne peut pas traiter d'un panneau du diptyque sans l'autre. Alors, Laurent Grésamer, dans votre livre, vous racontez fort bien les débuts du Monde, ce que tout à l'heure Bernard Lauzanne a dit, vous êtes en harmonie l'un avec l'autre, je veux dire, à savoir que c'est une version ascétique d'un grand dessin, que la rue des Italiens est loin d'être un immeuble qui offre un logement, des bureaux et un accompagnement balistique aux journalistes qui soit légal de ce que ça peut être et ce que c'est devenu heureusement maintenant, que les salaires y sont plus qu'étroits. Et alors, une chose que vous montrez très bien, c'est que, et là, on voit le prolongement de ce que disait Bernard Comte tout à l'heure à propos de l'école du Riage, c'est que Beuve-Méry recrute ses collaborateurs par une espèce d'instinct, les uns après les autres, et qu'il n'y a pas d'équipe de départ. Il y a une sorte de longue théorie de passants qu'il agrège à son projet, que tantôt il prend apparemment avec la certitude qu'ils seront des collaborateurs fidèles, que tantôt il assigne certaines tâches, exemple Jean Planchet, qui comme il vient de démobiliser se trouve affecté aux affaires militaires alors qu'il n'en a pas le goût préalable, que tantôt il met à l'épreuve, et aussi par le jeu d'un réseau qui est un réseau de recommandations, je parle de Jacques Fauvet, Henri Fesquet, etc., qui fait que cette équipe qui va devenir célèbre, qui va même être celle qu'on considéra comme étant, je veux dire, le politburo du monde autour de son patron, est au fond, au départ, une équipe qui a entré à un certain nombre de points communs, mais c'est plutôt Beuve-Méry qui tient les points communs dans son esprit que les gens les uns par rapport aux autres.
Oui, au départ, en fait, il hérite d'une trentaine de journalistes du temps, le journal.
Oui, j'ai oublié de le dire.
Et en fait, c'est une équipe composée essentiellement de, j'allais dire, de vieux journalistes. Je veux dire des journalistes mûrs, déjà formés. Et en fait, je parle sous le contrôle de Bernard Lauzanne et de Jacques Nobécourt, mais en fait, très rapidement, Beuve-Méry va se soucier de rajeunir cette équipe. Et ce qui va faire la vitalité de cette équipe, c'est qu'il va embaucher effectivement des jeunes journalistes, des journalistes qui ont entre 20 et 25 ans, et qu'il va former, ou qu'il va faire former par son équipe. Et je crois qu'en fait, lorsqu'il prend un journaliste, il se soucie assez peu de ce qu'il pense sur tel ou tel sujet. Son souci, c'est de savoir si c'est un jeune homme, d'une certaine manière, désintéressé. Et puis surtout, si c'est un jeune homme suffisamment éveillé et intelligent pour qu'il puisse devenir, à terme, dans 2-3 ans, un bon journaliste. Parce qu'au départ, il y a une sorte de bizutage. Le journaliste ne signe pas d'article, il reste dans l'anonymat, il se doit de respecter une règle monacale, et il est formé par les autres. Je crois que c'est ce qui va former l'équipe du Monde, c'est cette auto-formation, finalement. On prélève un jeune journaliste, et puis on l'intègre dans une équipe patiemment. Et c'est à lui de faire ses preuves. S'il ne s'en convient pas, eh bien, il est éjecté.
Est-ce que je peux dire un mot ?
Jean-Jeanne.
Je crois que vous avez raison d'insister sur le fait qu'il y a l'équipe du temps au départ. Et cela est un des traits propres de cette naissance. On ne peut pas comprendre le début du Monde si on ne réfléchit pas au rapport très ambigu qu'il entretient, et Beuve-Méry aussi, avec le temps. Puisqu'au fond, il y a eu une expropriation politique du temps, c'est très clair. On a choisi, dans le gouvernement de Gaulle, une date pour marquer le moment où il ne serait plus légitime d'avoir continué de paraître, de telle sorte que le Figaro puisse reparaître. Le temps ne le pouvait pas. Et il y a eu dévolution du temps à l'équipe qu'a formé Beuve-Méry, avec les gens du temps qui y était, ce qui a beaucoup contribué à colorer le journal. Je dirais que cela l'a engagé à une certaine fidélité. Il y a un certain nombre de traits du temps qui sont là. Il y a une certaine austérité, le goût de ne pas parler à voix trop forte, sans éclat, le devoir de citer des textes nombreux, d'être un journal de référence. Tout cela est important. Et en même temps, cet héritage engage aussi à une différence. Je veux dire que si Beuve-Méry a mis tellement l'accent sur la pauvreté nécessaire, ce n'était pas seulement par tempérament, mais c'était aussi pour se définir contre le temps, qui était un journal qui, sous un aspect très, très, très pondéré, très comme il faut, comme on disait à l'époque, cachait bien des aspects qui étaient tout à fait douteux, et une partie même avait souvent été vendue, une partie de ses colonnes. Donc il y a cette double attitude à l'égard du temps, d'autant plus que les héritiers du temps sont là, ils ne cessent pas de faire des procès, de protester, de réclamer qu'on leur redonne le journal. Tout cela compte, et au fond, l'origine politique du Monde, on l'a un peu oublié aujourd'hui, a toujours été très présente dans l'esprit de Beuve-Méry. Lorsqu'il voit De Gaulle en 1958, il lui rappelle que c'est son gouvernement qui, d'une certaine façon, a chargé Beuve-Méry et les siens d'incarner cette volonté à partir de l'acte fondateur de l'expropriation du temps. Ça, c'est très important. Et je crois qu'aujourd'hui, 50 ans après, on a un peu perdu tout cela de vue, mais qu'il en reste probablement encore néanmoins quelques traces. D'autant plus que dans le regard des autres, des chancelleries, des étrangers, il y avait souvent confusion entre ce qu'était le monde et ce qu'était le temps. Vous parlez de l'Église catholique. Nous avions cité, Julliard et moi, dans notre livre, une dépêche de Vladimir d'Ormesson, lui-même ancien journaliste au temps, à l'époque ambassadeur auprès du Saint-Siège, qui s'indigne de la façon dont le monde parle de l'Église et de rapporte l'irritation qu'il crée dans l'entourage du Saint-Père. Tout cela montre que les rapports avec le temps sont essentiels et permet, mais ce sera une autre affaire aussi, éventuellement d'introduire une réflexion sur ces rapports avec le MRP. Parce que le MRP, c'est précisément, au départ, ça peut apparaître comme un des parrains de Beuve-Méry venant là. Il apparaît comme l'homme du MRP. Le MRP, c'est un effort pour incarner un certain nombre de vertus chrétiennes dans la vie politique. Et la déception que Beuve-Méry éprouve à mesure que la vie de la 4e République se déroule, la politique indochinoise en particulier du MRP, un certain nombre de compromissions de ce parti avec les forces d'argent, tout cela contribue aussi à ce que Hubert Beuve-Méry et son journal se définissent par différence. Comme toujours, ce qui est fascinant, on le voit très bien dans votre livre, Laurent Grelzamer, il y a tout ce que représente la continuité, qui échappe plus à nos yeux d'aujourd'hui que c'était clair à l'époque, et aussi tout à coup des espèces de ruptures fondatrices qui colorent différemment l'entreprise et qui, de ce point de vue-là, méritent d'être relevées.
Dans le sens de ce que vous dites, j'en ai juste un mot pour dire que on a toujours assimilé Hubert Beuve-Méry le monde et considéré que le monde était un agrég, enfin, je dirais un bloc de béton. À propos de la remarque de Vladimir d'Ormesson concernant la formation religieuse dans le monde, c'était Henri Fesquet qui tenait la chronique à l'époque, et Laurent Grelzamer montre très très bien que Hubert Beuve-Méry couvre toujours ses collaborateurs. Oui. C'est-à-dire que le principe est que même en dissentiment intérieur, vous le montrez sur d'autres exemples dans le domaine des arts et du spectacle, mais qui couvre toujours ses collaborateurs. Et au fond, ce qui ressort de votre livre aussi, c'est la très grande indépendance du journaliste du monde à l'intérieur de ce qu'on considérait comme une société groupée autour de son patron et qui n'avait pas de marge d'indépendance. C'est faux. Vous montrez tout ça, Bernard Lausanne.
Oui, je voulais souligner en effet l'importance de l'équipe du temps, mais évidemment pas du tout l'importance de l'éthique du temps. C'était l'équipe, c'est-à-dire les gens qui avaient, qui s'étaient détachés un peu du journal Le Temps. L'équipe de ce journal s'était divisée, les uns étaient devenus assez proches de Vichy, les autres avaient arrêté leur activité en 42-43, et ce sont ceux-là qui sont arrivés en 1944 aux rues des Italiens. Et ils ont joué un rôle très important de pédagogue pour ce recrutement de jeunes ou de moins jeunes qui n'avaient jamais fait de journalisme. Et c'est vraiment, nous avons été à l'école des anciens du temps. Mais il est évident qu'il y avait une séparation totale entre l'esprit du temps et l'esprit du monde.
Jacques Nobicourt.
Oui, je voudrais signaler deux choses à propos de ce que disait très justement Jean-Noël Jeannet. C'est qu'à une date relativement assez tôt, Beuve-Méry a tenu à rembourser, à payer les indemnités aux propriétaires du temps en compensation de la confiscation, et des indemnités assez confortables pour que l'équipe propriétaire du temps s'estime satisfaite, d'autant que ça avait été fait très notablement en avance par rapport à ce qu'avaient fait les autres journaux. Donc il a rompu les liens, et les liens d'argent, aussitôt qu'il l'a pu. Et puis la seconde chose, dans la politique de recrutement, je parle sous le contrôle de Bernard Lausanne, je crois que très tôt, le père Boisselot et les dominicains de la Tour Maubourg ont joué un rôle très important de criblage d'un certain nombre de collaborateurs d'origine catholique. Et que Beuve-Méry, qui voyait le père Boisselot, enfin il y avait les fameux déjeuners du mardi, fréquemment tenait le plus grand compte du recrutement qui passait par ce canal.
Bernard Lausanne.
Oui, mais ce recrutement était très large et très pluraliste, puisque l'on a recruté, j'en suis un exemple, des agnostiques qui ne sont pas très chrétiens et qui ne passaient pas du tout par le père Boisselot ou par les autres dominicains.
Il y en avait beaucoup au début.
Il y en a eu quelques-uns. Pas beaucoup.
Remarquable par la qualité, par le nombre, peut-être moins.
Oui, il y en a eu tout de même.
Laurent Rosalmer.
Oui, je pense en fait que Hubert Beuve-Méry était très sensible à l'équilibre au sein de sa rédaction. Et la remarque de Bernard Lausanne me semble très, très juste, parce que effectivement, beaucoup de témoins, de personnes qui ont connu Beuve-Méry, m'avaient signalé le fait que Beuve-Méry avait essayé d'établir une sorte d'équilibre. Alors c'est vrai que les bons pères avaient un rôle et qu'il arrivait qu'un rédacteur arrive avec en poche une lettre de recommandation du curé de sa paroisse. C'est exact, ça a beaucoup joué, mais en même temps, de temps à autre, Beuve-Méry, disons dans une démarche volontariste, engageait des journalistes issus d'autres milieux.
Bernard Lausanne.
Il ne faut pas oublier que Beuve-Méry avait pour adjoint principal à la tête de la rédaction celui qui est devenu le rédacteur en chef, André Chenbenoît, oui, qui avait un peu ses opinions républicaines et athées, et qui jouait un rôle de contrepoids, et qui recrutait lui aussi, finalement la décision appartenait à Beuve-Méry après l'entretien dont vous avez parlé, l'entretien d'une heure qui était très intéressant pour les deux interlocuteurs, mais Chenbenoît apportait lui aussi, comme le père Boisselot, ses candidats.
Alors, il y a dans votre livre, Laurent Grémer, un épisode que je ne connaissais pas d'ailleurs, qui est un épisode étrange et très symbolique, qui est ce que vous appelez la blessure du rapport Fechtler, qui, je trouve, est quasiment une illustration à la fois de ce que peut être l'entêtement de Beuve-Méry, de son art de résister pour mieux gagner, et en même temps de la façon dont, vous allez en dire un mot mieux que moi, je ne vais pas résumer, dont, à propos de quelque chose qui est une information qui s'avère fausse, ou en tout cas erronée, il arrive à retomber sur ses pieds concernant son attitude vis-à-vis de la politique des États-Unis. Il retombe sur ses pieds de justesse, mais il retombe.
Oui, le rapport Fechtler, c'est en 1952 un rapport soi-disant secret, extrêmement confidentiel, des États-Unis sur leur politique à l'égard du monde arabe. Et en fait, Hubert Beuve-Méry et son principal collaborateur, donc André Chenbenoît, prennent sur eux de le publier à la une comme un document ultra secret. Et en fait, il s'avère que ce document est un faux. Et effectivement, c'est une blessure professionnelle extrêmement vive pour Beuve-Méry, puisque vous le rappeliez tout à l'heure, le premier éditorial du Monde dit bien qu'il s'agit de publier dans le Monde des informations vraies, recoupées, vérifiées. Or là, effectivement, non seulement ce rapport fait un bruit énorme, puisque en fait, il révèle soi-disant un double jeu des États-Unis et en fait, c'est un faux. Et cette blessure sera d'autant plus profonde que Hubert Beuve-Méry aura beaucoup de mal à reconnaître ce fait. Je crois que dans le livre d'ailleurs de Jean-Noël Jeannonet, il était déjà question de cette blessure ou de ce faux pas professionnel. Alors, comme ce sera l'un des rares, mais il est majeur, c'est pour Beuve-Méry un peu une torture. Et il mettra énormément de temps à admettre ce faux pas.
Il faut citer pour l'histoire tout de même le fait que dans ce rapport, il était prétendu que dans le cadre d'une attaque soviétique, les États-Unis ne défendraient pas l'Europe et chercheraient à nouveau avec les pays arabes des alliances qui leur permettraient de reconquérir l'Europe par le Sud, qui à l'époque contemporaine méritait d'être cité. Je veux dire. Bernard Lausanne.
Oui, alliance d'ailleurs qui supposait l'indépendance des pays d'Afrique du Nord.
Absolument.
C'est la raison de cette révélation du rapport Fechtler. Mais non, ce que je voudrais dire, c'est que cette révélation a eu lieu en 51, je crois.
52,
en février 52.
C'est-à-dire en pleine guerre froide, et à un moment où on cherchait à battre le monde par tous les moyens. Et il semble, je ne sais pas si avant sa mort, l'auteur du rapport Fechtler l'a révélé,
je l'ai rencontré, il me l'a confié.
Oui, c'était une opération pour déstabiliser le monde, et elle a failli réussir. Deux, trois ans après, il y a eu des tentatives directes, création d'un concurrent avec de très gros moyens, concurrent qui a complètement raté le temps de Paris. Mais l'affaire du rapport Fechtler, c'est une affaire politique pour essayer de déstabiliser le monde. L'erreur, c'est d'avoir cru ce rapport.
Comme vous le dites, on ne comprend pas l'affaire du rapport Fechtler. Il ne s'agit pas d'excuser l'erreur professionnelle. si on ne le replace pas dans un paysage qui est celui d'un concentré d'attaques contre le monde. Le monde s'éloignant de plus en plus des positions de départ, ayant pris une attitude distante par rapport à la construction européenne, assez anti-allemande en particulier. Le monde subit à la fois les attaques du MRP, qui considère que ça devait être son journal et que le journal l'a trahi, l'affaire indochinoise également, des attaques d'autre part des milieux vichistes, des milieux du temps qui relèvent la tête et qui considèrent que sa existence est un scandale en soi, d'où la crise de 51, qui vous évoquez tout de même très brièvement, car c'est une sorte de nouvelle fondation du monde. Il y a une démission de Beuve-Méry, reprise. Il a toujours été tenté par la démission. Bon, en tout cas, il l'a toujours dit. Reprise, et qui aboutit à cet événement bouleversant de l'histoire de la presse, qui est la naissance d'une société de rédacteurs. Nous avons lu que le futur directeur du Monde n'a pas été choisi, mais en tout cas que le candidat de la société des rédacteurs vient d'être choisi. Et c'est un effet très direct, 40 ans après, de la crise de 1951. Beuve-Méry s'appuie sur ses rédacteurs, sur la société des rédacteurs qui se crée pour reprendre le pouvoir, mais ensuite, ça ne l'empêche pas de maugréer contre le système des soviets, ce qui ramène finalement à notre propos d'antérieur, c'est-à-dire comment gouverne-t-il, quel est son type de direction, et comment ce type de direction lui a permis de passer finalement à travers tous les orages, dont ceux de 51-52, je crois que rarement le bateau a été autant secoué.
Alors, on a parlé tout à l'heure, c'est vous Bernard Lauzanne, je crois, des silences de Hubert Beuve-Méry. Je voudrais quand même qu'on rappelle que c'était un homme de plume, après les incidents que vous venez de mentionner, Jean-Alain Jeannet, au fur et à mesure que Sirius grandit, Laurent Grésamère le montre très très bien, il prend ce style concis, sec, incisif, qui devient le style de Sirius. Et le 15 mai 1958, alors qu'un comité insurrectionnel a été déclaré à Alger, il écrit un éditorial dans Le Monde que l'on va entendre qui s'appelle « Folie ».
Folie de ces hommes politiques qui croyaient pouvoir confondre indéfiniment l'art de gouverner avec celui de biaiser, de tricher, de mentir. Folie plus grande encore de ceux qui n'ont pas craint de jouer avec le feu et transiger de longue date avec les émeutiers d'aujourd'hui. Folie de ces ultras qui croient pouvoir défier la métropole et avec elle le monde entier sans perdre irrémédiablement tout ce qu'ils prétendent sauver. Folie de ces militaires qui croient pouvoir s'inspirer aujourd'hui de l'aventure franquiste sans se mettre en fait au service du Kremlin. Que le Parlement, rompant enfin avec ses habitudes, mesure le danger, appuie d'une majorité massive un gouvernement d'hommes résolu à faire respecter partout et par tous la légalité républicaine, et le comité de salut public qui règne à Alger sur les bâtiments du gouvernement général sera bientôt rendu à ses vraies dimensions. Si par malheur, le Parlement en était une fois de plus incapable, qu'il appelle au secours un homme dont nul, certes, ne peut garantir qu'il incarne aujourd'hui le salut, mais dont nul n'égale non plus le passé. La nécessité aidant, peut-être le général de Gaulle pourrait-il tenter de rallier cette fois encore, autour de lui, une majorité de Français de toutes appartenances et de toutes opinions. Peut-être saurait-il donner une expression vraiment nationale à ce gouvernement de salut public dans lequel ceux qui le réclament, avec le plus d'instance, ne voient trop souvent que l'instrument de leur propre triomphe. Le choix étant aujourd'hui plus large qu'à Londres il y a 18 ans ou qu'à Paris il y a 12 ans, peut-être trouverait-il plus aisément la poignée d'hommes à l'indomptable sagesse dont la France a besoin. Nous n'en sommes pas encore là. Investi de responsabilités écrasantes, M. Flimelin doit faire face et y paraît résolu. Le général de Gaulle, lui, est mis en demeure. Le « moi », général Massu, que nous avons entendu cette nuit, peut susciter en lui d'étranges résonances. Mais les situations n'ont de commun que le malheur de la patrie. Le général de Gaulle doit faire savoir sans aucun retard s'il condamne ou s'il admet le geste des émeutiers.
Un indépendamment du style qu'il était nécessaire de rappeler, on voit qu'en 1958, dans cet éditorium notamment, Hubert Beuve-Méry prend parti et met le monde dans cette balance d'influence qui explique que le ralliement du général de Gaulle, c'est autre chose qu'une question de style. Je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais il faut le rappeler. Alors, on pourrait naturellement longuement disserter sur l'influence du monde. Et d'ailleurs, Laurent Rézamer, vous le faites. D'autres livres l'ont fait avant vous, mais c'est quand même l'aspect capital de cette grande institution et de son rapport avec Beuve-Méry. Mais je voudrais qu'on dise quelques mots de ce grand panorama qui est dû à Marc Lazare et à Daniel Ginca, qui s'appelle « L'histoire au jour le jour », 1944-1945, « Le monde », et qui... 85, et qui a pour ambition de présenter le monde de deux façons, je dirais, dans ce qu'est la radiographie de ses éditoriaux, des grands thèmes qu'il a traités, et en même temps, la façon dont, rétrospectivement, on a pu analyser les positions du monde. Il y a une jonction entre les deux, avec d'ailleurs plus l'accent sur la politique extérieure que sur la politique intérieure, mais... Voilà la jonction, plus une énorme cartographie, qui ne fait pas partie toujours du quotidien, mais qui en fait un atlas et un instrument d'accompagnement tout à fait remarquable. Marc Lazare.
Et une chronologie.
Une chronologie, bien sûr.
Puisque je crois que c'était le principe de départ de ce travail, qui était à l'occasion du 40e anniversaire du Monde, d'essayer de fournir un instrument de travail, et précisément qui donne une chronologie. Donc, c'est le principe, partir d'une chronologie, en saisir les moments importants et à cette occasion plonger dans le monde pour essayer de trouver un article qui puisse non pas illustrer, mais permettre de mieux comprendre la date. Donc, c'est un double jeu, à la fois un double regard, effectivement, celui de l'historien qui essaye de trouver des repères en s'appuyant sur le monde, mais aussi, du coup, un certain type de regard sur le monde. Et de ce point de vue-là, je crois qu'il faut tout de suite nuancer peut-être quelque chose, mais là aussi, je parle sous le contrôle de plusieurs journalistes du Monde, alors peut-être que je me tromperai. Vous venez, Philippe Levillain, de faire l'allusion, et on vient de l'entendre, au style concis, précis de Sirius. Mais ce n'est pas toujours le style.
C'est peut-être vite dit.
Non, c'est pas ça. Sur Sirius, je crois que c'est tout à fait vrai.
C'est en tout cas
pas le seul aspect du journal, et même dès le début. Je crois que c'est très important de comprendre ça. Et par exemple, je voudrais, alors bien sûr, je ne veux pas ici citer comme ça, sortir un certain nombre de journalistes, mais je voudrais en citer un quand même qui montre, je crois, l'extraordinaire aventure du Monde, c'est Robert Guillain. Robert Guillain, c'est deux choses. D'abord, c'est un prodigieux reporter. C'est une qualité formidable. Il suffit de lire les textes qu'on a ressortis à cette occasion. On n'imagine pas, à la limite, que c'est ce qu'on attend du monde. C'est-à-dire, c'est le sens, c'est le pittoresque au bon sens du terme. C'est quelqu'un qui est fasciné par son sujet et qui arrive à la description de Dien Bien Phu, la description de l'arrivée des forces communistes dans Shanghai, les Martiens sont arrivés. C'est un texte absolument formidable. C'est une anthologie du journalisme et qui, d'ailleurs, s'est perdue. Je suis peut-être un peu polémique ici, mais qui s'est peut-être un peu perdu dans la qualité de l'investigation journalistique. Et je crois que c'est très important. Et Guillain, c'est aussi l'Asie, c'est-à-dire c'est la compréhension. Moi, j'avais fait une étude comparée à ce moment-là des autres organes de presse. Le Monde est le seul journal, à l'époque, à avoir compris l'importance de ce qui se passait en Asie. C'est-à-dire que ça échappait complètement au reste de la presse, à mon sens. Peut-être que je me trompe, mais il y a là, grâce à Robert Guillain, une fascinante ouverture sur le continent asiatique.
Mais Hiroshima.
Alors Hiroshima s'était présenté comme une révolution scientifique. Hein, c'est extraordinaire de voir cela. On annonce la bombe d'Hiroshima comme une révolution scientifique. Là aussi, alors, c'est le témoignage de l'époque. C'est la sensibilité de l'époque de présenter cet événement comme cela.
Je voudrais juste dire d'un mot que, outre son très grand intérêt documentaire, votre travail met bien en lumière ce qui est un des traits originaux du journal Le Monde. Je veux dire, sa tendance toujours à, comment dire, lisser la courbe de l'actualité, pour reprendre une expression des statisticiens, à se placer très souvent au futur antérieur ou au plus que parfait. Le fait que vous ayez rejoint dans ces pages, regroupé des articles écrits sur le champ et d'autres qui sont des rétrospectives, met cela encore mieux en valeur. L'intérêt des biographies ou des nécrologies est également très frappant. Il y a toujours, et au fond certains l'avaient remarqué dès la naissance du Monde, quelque chose qui apparaît comme anti-journalistique ou ajournalistique, qui est cette façon de ne pas coller à l'événement lui-même, mais de prendre du recul. Et en fait, c'est du journalisme, me semble-t-il, précieux, parce qu'il met mieux les choses en relief. souhaitons que dans les 50 ans qui viennent, le monde garde ce trait-là. Enfin, je le souhaite en tout
cas. C'est la vertu du journal du soir qui est déjà un journal du matin, Bernard Lauzanne.
Je suis content que vous ayez cité le nom de Robert Guillain, car je crois qu'en effet, c'était un très grand reporter. Et en même temps, dans l'affaire de Dien Bien Phu, il a apporté un regard dramatique. Avant la défaite, il a vraiment annoncé quelques semaines avant ce qui allait se passer. Ce sont des articles qui ont porté dans les milieux politiques pour la suite des événements.
Alors malheureusement, nous arrivons au bout de l'émission. Jacques Nobécourt.
Oui, je voulais compléter ce que faisait remarquer Jean-Noël Jeannet. C'est que un des très grands mérites de la formation de Boeuf-Méry, et on s'en rendait compte quand on allait lui lire le bulletin de l'étranger le matin, c'était qu'il avait l'art de nous apprendre à mettre l'événement dans sa perspective historique. C'était pas seulement lisser l'actualité immédiate, mais c'était prendre sur la longue durée, situer l'événement pour le relativiser. Et le second point, c'est qu'avec lui, Le Monde était un journal de politique étrangère et non pas de politique intérieure, et c'était un des grands débats des années suivantes.
Voilà, merci. Je voudrais dire en conclusion que ce débat, il y aurait naturellement eu beaucoup de choses à développer, notamment ce qu'on peut appeler le profil politique du monde et son évolution de 55, de 58 jusqu'à la mort de Boeuf-Méry. On aurait pu aussi parler des temps contemporains. On ne peut pas, ce sera l'objet un jour d'une autre émission.
Les rapports avec De Gaulle aussi.
Les rapports avec De Gaulle. Bref, je voudrais simplement citer pour conclure cette phrase que j'extrais d'ailleurs du livre de Roland Reisamer. Qui au moment de la crise de 51 est un témoignage, une lettre amicale de Joseph Folliet qui l'envoie à Hubert Boeuf-Méry, dans lequel il lui dit « À ma sympathie se joue l'expression de ma tristesse et de ma colère. Je ne sais quel plaisant disait de vous, Boeuf-Méry, il ressemble à Dieu, il a perdu son temps à faire le monde. » Il faut ajouter en conclusion ce que dit Folliet, « Vous au monde, vous n'avez perdu ni votre temps, ni le nôtre. » Je rappelle le titre des livres qui ont fait l'objet de l'émission de ce matin. Laurent Greysamer, Hubert Boeuf-Méry aux éditions Fayard, Bernard Comte, l'École nationale des cadres du Riage à l'atelier des thèses de l'Université de Lille 3, et Le Monde, 1944-1985, l'histoire au jour le jour aux éditions La Découverte, Le Monde, due à la collaboration de Marc Lazare et de Daniel Ginca. Merci.
C'était Les Lundis de l'Histoire, les années fondatrices d'Hubert Boeuf-Méry et du Monde par Philippe Le Villain. Première diffusion le 8 octobre 1990 sur France Culture. Réalisation Pierrette Perronneau. Lecture Jean-Pierre Leroux.